Bonsoir, vous êtes toujours Radio Esperanza, en direct du Festival Esperanza à Floreffe. Nous sommes le 2 août, le vendredi 2 août, et nous interviewons des artistes qui passent, qui nous font l'honneur de passer dans notre studio. En ce moment, nous avons IBI qui va jouer ce soir sur la scène du côté jardin. IBI qui devait jouer il y a 2 ans ici à ce festival, mais alors une de vous deux était malade, je sais plus.
Oui, c'est moi, je suis désolée.
Ah, c'est pas grave. Hein.
Je pouvais pas, il y avait pas de son qui sortait de ma bouche. Normalement,
ouais,
on joue même quand on est malade,
dommage,
mais là,
ouais.
Là, on pouvait vraiment pas. Et ça nous a un peu fendu le cœur. Enfin, non, vraiment, ça nous a fendu le cœur de voir tous les messages des fans qui étaient venus spécialement pour nous voir. Du coup, on est super contente d'être ici enfin et de pouvoir célébrer avec vous,
enfin,
finalement.
Faire sortir les sons.
Exactement.
Qui devaient sortir à ce moment-là.
Mais du coup, maintenant, on a 2 albums, donc il y aura encore plus de choses pour eux.
Ouais,
ah, ouais,
c'est encore mieux.
Alors, peut-être présentez-vous avant, parce que alors, je vous pose de but en blanc des questions, mais... Alors,
Naomi, je suis celle qui a la voix cassée.
Ok. Alors, cette fois-ci, vous n'allez pas annuler à cause de toi.
Non.
Non, elle a toujours la voix cassée, c'est sa voix. Et puis, moi, c'est Elisa Kainde, et je suis, oui, celle qui a la voix un peu haute, haut perché.
Ok, d'accord. Alors, on va peut-être commencer au début. Hein, vous êtes les filles de Anga Diaz, qui est un percussionniste qui a joué entre autres avec le Buena Vista Social Club, et comme une référence que tout le monde connaît. Est-ce que petite, vous alliez accompagner votre père au concert? Ça arrivait de temps en temps que vous étiez dans les loges, attendre que papa ait fini
Dans le public?
Non, on était dans le public, dans notre poussette.
À partir de quel âge?
Poussette.
Poussette dans le public. Eh ben, et vous avez les casques pour protéger les oreilles?
Ça n'existait pas à l'époque, je crois.
Ah ouais.
Je crois pas qu'on avait les casques. Mais, ça va, on fait de la musique, donc je pense que nous arrivons bien.
Ouais.
C'est
bah
vrai,
ouais,
que, je pense que, c'est aussi, vrai oui. Que maintenant, quand on voit des enfants, parce que parfois, il y a des bébés tout devant à nos shows qui n'ont pas de
casque, on se dit
aïe 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 aïe.
Mais aussi, à l'époque, je pense que les systèmes son étaient moins puissants aussi que ce qu'on fait maintenant. Puis il y avait moins de basses aussi, ouais, que dans nos shows où on a des espèces de grosses basses. Là, c'était quand même du jazz avec que des instruments acoustiques,
ouais,
donc c'était quand même moins hardcore. Mais ouais, c'était génial d'être toujours les enfants,
plus jeune,
les plus jeunes des shows. Uh-huh. On a grandi en allant voir des concerts tout le temps.
D'accord. Et alors, dans la maison, dans le salon, qu'est-ce que votre papa mettait sur la sono pour vous? De tout?
De nos parents, de tout. Beaucoup d'hip-hop, Prince.
Du hip-hop, ouais. Ah ouais?
Ah oui, ils adoraient le hip-hop.
Ouais.
Prince, du jazz aussi. Notre père était un fan absolu de Coltrane.
Mm-hmm.
Mais la chanson française, des folk songs du Venezuela. Notre mère est vénézuélienne. De la musique yoruba. Du classique. On a grandi en s'endormant sur la flûte enchantée de Mozart.
Ah, ben ouais.
Donc vraiment, ça allait de tout au tout de la chanson française. On allait en vacances et on écoutait Brassens. Ouais, on a aussi écouté Brel, mais on écoutait beaucoup Brassens.
Mais vos parents parlaient français. Enfin, votre père est décédé, je pense, hein,
oui,
il y a déjà quelques années. Il parlait français.
Pas un mot de français.
Il comprenait.
Il comprenait
Brel, Brassens.
Non, mais il aimait bien. Mais notre mère parle français couramment. Elle est franco-vénézuélienne. Donc
d'accord. Voilà. Ok.
Mais notre père aimait. Enfin, on aime vraiment de tout.
Ouais.
Ils étaient comme ça, ils avaient un goût éclectique de la musique. Et il a jamais, il nous a jamais appris ça, c'est la vraie musique, et puis ça, c'est un peu de la daube.
Ouais.
Je pense qu'il a eu l'occasion de jouer sur un disque de Céline Dion et il l'a fait avec joie. C'était vraiment, il avait pas du tout,
ouais,
il classifiait pas du tout la musique. Toute musique était bonne à prendre et à écouter.
Et puis j'imagine que ça faisait un peu d'argent aussi, quand même, de jouer sur un disque de Céline Dion.
Bah, je sais, franchement, c'était pas du tout ce qui l'a motivé, lui.
D'accord.
Pour le coup, c'était vraiment pas ça.
Okay.
En plus, moi, je suis une fan absolue de Céline, mais alors
ah,
vraiment.
Mais...
Du coup, à chaque fois, je.
Aïe, 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 merde, j'ai dit une bêtise là.
Ah non, 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 pas du tout.
Ouais.
Chacun ses goûts, hein, mais moi, vraiment, c'est... j'ai un vrai soft spot pour Céline. Mais en fait, on a grandi en se disant, on peut tout faire.
Ouais.
Et
moment que ça nous plaît.
Voilà, du moment que ça nous plaît, qu'on travaille dur et qu'on est authentique et que c'est authentique, on peut faire de la grosse pop. Tout comme on peut faire du jazz et ça sera tout aussi bien.
Ouais. Ben oui, c'est peut-être pour ça que pas mal de gens ont été étonnés, mais maintenant que vous m'expliquez ça, ça ne m'étonne pas que vous ayez joué avec l'autotune dans le dernier album.
Dans le premier aussi.
J'imagine qu'il y a des gens qui étaient scandalisés
par
ça.
Dans le premier aussi, il y en a, mais sauf qu'ils ne s'entendaient pas beaucoup.
Ouais.
Mais on a toujours eu.
Un peu honteuse, peut-être.
Non,
c'était juste qu'on avait vraiment fait le choix.
On n'a jamais été honteuse. Moi, j'adore. Nous, on a grandi avec T-Pain.
C'est vraiment...
Ça fait partie de notre enfance, quoi.
Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de ce qu'on écoute, ce qu'on a écouté en grandissant, du R&B qu'on a écouté en grandissant, et ça fait partie des effets qu'on adore le plus en plus. Je pense que c'est marrant, l'autotune, comme il a été récupéré par une catégorie de musique, ouais. Les gens l'associent qu'à cette musique, or c'est vraiment un effet génial. Et cette idée de mettre en lumière quelques mots, quelques phrases en utilisant un effet, c'est comme la disto pour la guitare, c'est comme c'est vraiment un effet, et c'est, enfin, je pense,
mais c'est peut-être que c'est rattaché tellement à un style de musique très commercial
que les gens se disent
ça peut choquer, ouais. Quoi,
puis ça a été rattaché au elles savent pas chanter,
bien sûr
ça a été rattaché au il y a des gens, les personnes qui l'utilisent ne savent pas chanter, donc nos fans ont dit mais vous savez chanter, pourquoi vous l'utilisez, tout ça. Et au final, ce qui est génial, c'est qu'ils sont venus nous voir en concert et ils adorent. Il y a jamais, c'est-à-dire que ils sont pas, ils le sentent même pas passer finalement. Quand on n'a jamais eu des tweets de gens qui sont venus au concert en disant pourquoi l'autotune. En fait, c'était juste, je pense, le choc des premières chansons qu'on a sorties de ce deuxième album. Et d'ailleurs, il n'y a pas de l'autotune sur toutes les chansons non plus. Mais le choc des deux premières chansons qu'on a chantées, qui les deux avaient des petits bouts d'autotune. C'était, ils se sont dit non, on les perd. Mais non, on est toujours toujours là.
D'accord, alors peut-être on va revenir, on a vu le papa, la maman, le salon à la maison, ce qu'on écoutait. Après ça, vous êtes mis à la musique naturellement, vous étiez dans une... Votre mère était, jouait de la musique aussi, elle chantait
Oui.
Elle faisait les chœurs, elle chantait quoi, qu'est-ce qu'elle...
Elle chantait des chants yoruba, elle allait à des chorales de chants yoruba, et puis c'est une musicienne dans un instrument, et elle travaillait, à l'époque elle était PR, comment on dit,
attachée
de presse dans une maison de disques, donc elle allait voir des concerts tout le temps, et puis elle s'est occupée de notre père aussi, pendant un moment elle a été sa manager.
Et elle s'occupe de vous maintenant?
Et maintenant elle s'occupe de nous.
C'est vrai?
Ouais.
Oh, c'est une histoire de famille qui continue.
Mais c'est du coup... Je pense que non, on a commencé la musique parce que notre mère nous a inscrit au conservatoire. Hein. C'était pas du tout, j'ai absolument envie de faire du piano. Non, pas du tout.
On a fait 10 ans classique.
Et puis ensuite,
elle s'est dit, je veux des musiciennes, mais il faut qu'elles aient une base.
Mais non, pas du tout, justement. Je pense qu'elle s'est dit, c'est toujours bien d'avoir la musique, mais je pense que quand on lui a dit on a envie d'être musicienne, elle a pas sauté de joie non plus. Elle s'est dit, aïe, dans quelle galère je me suis mise.
Déjà, avec votre papa, c'est pas facile, mais maintenant, si c'est les deux filles qui s'y mettent.
Surtout qu'elle connaissait un peu l'univers de la musique, elle sait que c'est un univers difficile. Oui, difficile, pas facile, que c'est un métier difficile aussi, et que du coup, elle s'est dit, oh, mon Dieu, les pauvres, comment je peux les protéger le plus possible.
Et maintenant que vous êtes dedans, vous sentez que votre mère vous a bien protégé pour vous préserver.
On a commencé, on était vraiment jeunes, on avait 18 ans, donc là, on en a bientôt 25. Le prochain, on en aura 27 quand on sera en tournée par là. Donc oui, effectivement, c'est vrai qu'avoir, en tout cas, on a confiance. Faut toujours, quand on fait ce métier, il faut toujours avoir des gens de confiance autour de soi.
Et donc, du coup,
ça, on l'a eu et c'est vrai que ça aide.
Et ça aide énormément. Et puis aussi, commencer avec quelqu'un qui ne te ment pas, qui ne te dit pas que tout est fantastique, que tout ce que tu fais est incroyable, ça donne une discipline. C'est-à-dire, on sort jamais d'un show sans se dire, OK, ça allait pas, on peut faire mieux et tout ça. C'est sûr, on a vraiment été protégés. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'on est équilibrés.
Il me semble.
Non, je te regardais, Naomi, pour que tu dises oui, on est équilibré.
On est très équilibré. Nous sommes très, très équilibrés.
D'accord.
Un peu folle, mais très équilibré.
D'accord.
Alors, vous faites le conservatoire pendant 10 ans, vous vous tapez des cours de solfège, de piano, des répétitions des heures, de répétitions de piano.
Puis moi, j'ai fait du jazz après, j'ai fait du chant de jazz après pendant quelques années.
Ouais, d'accord. Et toi, de ton côté ?
Classique.
Tu restes classique, ouais. Ouais. Et puis un jour, il y a. Vous avez toujours joué ensemble? Vous avez, chanté toujours à la maison ensemble? Jamais?
On a essayé une fois à 11 ans. Notre père est décédé, on avait 11 ans, et donc on a voulu essayer. Et c'était tellement catastrophique qu'on s'est dit plus jamais.
Et promesse d'ivrogne. Enfin,
et puis après, on a proposé à ma sœur de faire un EP, donc ce qui est un album plus petit, c'est-à-dire qu'il y a 4-5 chansons.
Ouais.
Et je lui ai dit, tu feras pas l'EP sans moi. Et elle m'a dit, non, je ferai pas sans toi.
Et donc, on a recommencé vers 16 ans. Moi, j'avais commencé à écrire à 14 et j'ai montré ma première chanson à Naomi. Elle m'a dit, c'est de la merde. Et elle est partie se coucher. C'était mais vraiment comme ça.
Elle a l'air d'avoir un caractère comme ça, assez cash. Hein, quand même.
Elle est super cash. Elle est super cash.
Et mais avec un très grand cœur.
Avec un très grand cœur.
C'est toujours, c'est jamais.
Il faut le savoir, juste, le savoir.
Non, ouais, mais je suis cash, mais je préfère être cash.
Mais du coup, oui, donc du coup, c'était pas du tout. Donc à 11 ans, on a essayé, ça s'est pas fait. À 14 ans, elle a pas du tout aimé ce que j'écrivais. Donc c'était pas parti pour. Et puis à 16 ans, en effet, on m'a proposé de faire un EP et elle m'a dit, tu fais pas l'EP sans moi. Et j'ai dit, bah ok, je le fais pas sans toi. Maintenant, je l'aurais pas fait sans elle. Et on a commencé comme ça et petit à petit. Mais au début, c'était un jeu pour nous. C'était pas dit. Quand on nous a dit vous allez faire un EP, on s'est pas dit on va être des chanteuses, on va être sur scène, on va faire le monde entier. Ah, pas du tout. Ouais, hein. On était c'est cool. On va faire quelques petits concerts le week-end. Notre premier concert, vrai concert à Paris, dans un petit club de jazz, le Sunside. On a été signé ce jour-là.
Et puis un mois plus tard, on était en studio.
Et je pense que même l'organisateur du festival, il était là ce jour-là parce qu'il m'a dit.
C'est vrai.
Je les ai vus dans un tout petit club à Paris. Je me suis dit, dès ce moment-là, je les veux au festival.
Oh, c'est dingue.
Ouais.
Ah là, c'est dingue parce que c'est vraiment. Je pense qu'il y avait 80% de notre famille. J'exagère, mais je pense que vraiment là, c'était tout petit.
D'accord. Et alors comment dans le genre de musique que vous vouliez faire. Parce que vous aviez tellement d'acquis et de choses, de musique classique, de musique de votre père, tout ce que vous écoutiez à la maison, comment vous avez décidé comme ça
IBI, c'est. On est très très différentes. On est jumelles, mais on est très opposées. Donc c'est le juste milieu entre mon monde et son monde.
Ouais.
Donc mon monde, c'est le hip-hop, le reggaeton, la fête, voilà. Ouais. Elisa, c'est plus jazz. Moi, c'est plus.
Une intello, c'est plus l'intello. Voilà.
Moi, je suis sensitive et elle est réflexive. Comment dire ?
Réflexive. Intello, quoi. Intello, tu peux dire.
Non, c'est pas.
C'est pas
oui, mais, c'est,
elle est... mais je suis très elle dans analyse. La réflexion.
Elle analyse. Moi, je fonce.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Mais donc, oui, c'est ça. En fait, comment ça s'est fait très naturellement en essayant de faire de la musique ensemble ? C'est
d'accord.
comme ça que ça s'est fait.
Pour
le coup, on n'a pas décidé, on s'est pas assis à une table et on s'est dit, alors on va mettre tant de pourcentage de hip-hop, tant de pourcentage de musique un peu expérimentale, tant de pourcentage de Yoruba, tant de pourcentage. C'était pas une recette.
Ouais.
Ça s'est vraiment fait en faisant.
Instinctivement,
en faisant, en
tu
étant ensemble.
Tu t'es assise sur ton cajon, tu as commencé à chanter et puis.
Et puis au studio, on a rencontré Richard Russell qui a produit nos deux albums et c'était, comment dire. Vraiment, oui, c'est ça, instinctif, naturel, organique. On était là les trois et on faisait les trois, vraiment.
Uh-huh.
Et ça s'est aussi fait parce qu'on nous a, il nous a proposé deux manières de faire cet album. Il nous a dit où vous allez, le premier, où vous le faites avec plein
d'instruments. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez faire quelque chose comme à Alicia Keys, donc avec
plein d'invités
band, voilà.
Avec qui
c'est Alicia Keys ?
Ah, Alicia Keys.
Si
okay,
ou est-ce que vous voulez être que toutes les deux ? Et puis on a dit toutes les deux.
Voilà, donc on l'a fait aussi. On s'est trouvé aussi en faisant nous tout, en jouant nos basses, en jouant nos beats, en jouant tout, le piano, le cajon et tout ça. Du coup, on n'avait pas le choix. C'est comme ça qu'on a trouvé qui on était et notre identité musicale.
Donc en studio, ça s'est beaucoup construit en studio.
On avait toutes les chansons avant, mais ça s'est ensuite construit. Non, pas toutes. On avait quand même beaucoup de chansons avant. Et et en studio, en faisant.
Mmh.
En faisant, on s'est trouvé. Et ensuite, pareil, le deuxième, c'était pareil. Sauf que le deuxième, on a eu l'idée en faisant le premier, donc c'était un peu différent.
Ah, mais j'imagine le deuxième, il y avait une assez grosse pression, parce que comme le premier a assez bien marché, a eu des super critiques, pour le deuxième, on se pose pas de questions, on dit est-ce qu'on fait la même chose, on continue.
Pas tellement, parce qu'en fait. Pardon.
Je pense que c'est plus le prochain là.
Ouais, c'est plus celui-là la prochaine.
Ouais.
Mais surtout parce qu'on n'a pas pris
auto-tune,
de temps.
Pas auto-tune.
Ah mais
le
non,
prochain.
Mais ça c'est vraiment.
Non, après ça on pose même pas la question. Hein.
C'est vraiment ça sera naturel
peut-être
aussi.
Peut-être que ça sera que de l'auto-tune, qui sait.
Ou peut-être pas du tout.
Peut-être qu'on sera que en train de twerker.
Avec des tonnes de featuring.
Ouais.
On sait.
On va être en train de twerker sur les tables.
Non, ça c'est vraiment. On a de la chance, on se permet tout. Mais parce que notre père s'est toujours tout permis dans la musique, et donc on a grandi en se disant, mais alors il y a vraiment, on peut tout faire. Mais par contre, la raison, je pense, pour laquelle il n'y a pas eu de pression pour le deuxième, c'est qu'entre le premier, la fin de la tournée du premier et l'enregistrement du deuxième, on a eu un mois. Donc on avait écrit déjà toutes les chansons en tournée. Et donc on a eu un mois. Donc on était dedans. On n'a pas eu le temps de se dire aïe aïe aïe, qu'est-ce que les fans vont penser. Non, mais on n'a pas eu le temps de réfléchir justement. On n'a pas du tout été dans la réflexion, on a été dans l'instinct. On a eu un mois où on a mis toutes les chansons et fini toutes les chansons. Et ensuite, bam, studio. Là, pour la première fois en 6 ans, on va prendre du temps. Donc je pense que là, la panique va rentrer. Déjà qu'on est paniqué déjà avant même d'avoir fini la tournée, mais je pense que là, la panique... Toi, ça va tout le temps, c'est moi qui suis paniquée tout le temps. Mais là, je pense que oui, on va être un peu paniqué, mais on sait aussi que quand on rentre en studio, on a cette phrase qui est écrite sur le studio qui dit « Here, no outside realities ». Ici, pas de réalité extérieure. Et ouais, je pense que c'est vraiment... C'est vraiment quelque chose qu'on essaye de suivre.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vous enfermez dans un cocon ?
On ne va pas essayer de penser à ce que les autres pensent.
Ah,
et
voilà,
pourquoi,
à ce qui va se passer.
Est-ce que
les gens vont s'énerver ? Ou si on fait un album comme ça, est-ce que les gens vont aimer ? Ou un album comme ci ? On n'essaye pas de créer l'album parfait pour les fans. On essaye de dire notre vérité à nous. On essaye de transmettre ce qu'on a dans le ventre et notre vraiment envie du moment. Et de mettre 100% qui on est dans un album.
Ouais.
Voilà, c'est ça qu'on essaye de faire.
Que ce soit une chanson qui fait danser, que ce soit de la pop, que ce soit du...
expérimental, ou peu importe. Voilà, ouais. On essaye d'être nous à 100%. Et on se dit que si on est nous à 100%, une fois que ça sera dans le monde, ça sera ça sera authentique, les gens réagiront à ça.
Ça va devenir universel. Comme c'est un peu le local qui est universel, très local. Donc, ce qui est en vous et ce qui est vrai en vous peut être compris par tout le monde. C'est un langage universel.
Exactement, on se dit qu'être authentique, c'est ce qui est le plus... comment dire, c'est ce qui lie les gens le plus. Donc on se dit qu'on va faire l'opposé de créer la musique que les gens pensent veulent et on va créer notre musique à nous.
D'accord.
Et peut-être qu'en fait, c'est ça ce qu'ils veulent, mais ils ne le savent pas.
Ok, mais on va rester sur cette superbe phrase parce que apparemment vous avez d'autres rendez-vous qui suivent.
Oui, encore un peu partout. Avant le concert d'ailleurs, on joue ce soir.
Ben oui, alors je ne sais plus à quelle heure, mais je crois que c'est vers 22h.
22h45 ou quelque chose comme ça, juste avant 23h.
22h45.
L'année dernière.
Sur la scène côté jardin. Et je vous enjoins à aller voir ces deux jolies femmes qui parlent de leur intérieur.
Voilà. Voilà. Pas que.
Et on va vous faire danser et chanter. Et
ah voilà. D'accord, parfait. Voilà, un grand merci à
merci
vous.
Beaucoup.
Et à la prochaine fois. Au revoir.